Je vais faire simplement quelques remerciements. Bien évidemment, je remercie d'abord Michael Stolleis, à la fois d'être présent ici, mais d'avoir confié la publication en français du deuxième tome de son Histoire du droit public en Allemagne à la collection Rivage du droit. Je remercie aussi les éditions Dalloz qui, Madame Hoche m'a dit qu'elle essaierait de venir, mais elle n'est pas certaine de pouvoir nous rejoindre aujourd'hui. Et évidemment, je remercie mes collègues, qui sont également mes amis, d'avoir bien voulu lire l'ouvrage en français. Je pense qu'un certain nombre d'entre nous ici l'avaient lu en allemand, et livrer quelques appréciations sur cet ouvrage. Je vais donner immédiatement la parole à Jean-Louis Mestre, qui a fait la présentation de l'ouvrage et qui va également faire une présentation de l'ouvrage et de son auteur pour commencer.
Très bien. C'est un grand honneur que de présenter le professeur Michael Stolleis, que d'évoquer son parcours universitaire et son œuvre. Il a étudié la théorie du droit dans deux universités, celle de Würzburg et de Heidelberg. Il s'est intéressé aux histoires de la littérature, de la culture, et à l'université de Munich, il a rencontré un professeur suédois, Sten Gagner, je ne suis pas sûr du tout de ma prononciation, qui a accru sa curiosité pour l'histoire du droit, conçue comme une histoire ouverte, à la fois d'une science et d'idées insérées dans les mentalités de l'époque. Il est devenu professeur de droit public et d'histoire moderne du droit à l'université de Francfort-sur-le-Main, et il est devenu aussi directeur du prestigieux Max Planck Institut pour l'histoire du droit. Il a notamment accueilli le professeur Jacques Hummel lorsque celui-ci préparait sa thèse sur le constitutionnalisme allemand de 1815 à 1918, de même qu'il a accueilli Aurore Gaillet lorsqu'elle a rédigé sa thèse sur l'évolution des recours de droit public dans l'Allemagne du XIXe siècle. Il a obtenu, en 1991, le prix Leibniz d'un grand organisme de recherche sur l'Allemagne, et il a généreusement utilisé le montant de ce prix au profit d'historien du droit de l'ancienne République démocratique d'Allemagne, finançant de la sorte leur séjour dans la partie occidentale de la République fédérale. Il a co-dirigé avec Jacques Crinel, qui est professeur, vous le savez, d'histoire du droit à l'Université de Toulouse 1 Capitole et qui est membre de l'Institut universitaire de France. Il a co-dirigé donc avec Jacques Crinel les travaux d'un colloque international qui s'est tenu en 2006 à la Faculté de droit de Toulouse et dont les actes ont paru en 2008. Un colloque dont les actes ont été publiés sous le titre « Sciences politiques et droit public » dans les facultés de droit européenne, 13e, 18e siècle. Il est aussi l'auteur d'une méditation érudite et subtile sur l'adage selon lequel l'œil de la loi veille. Il a replacé cet adage en commentant une riche iconographie dans la transformation du motif de l'œil de la divinité, thème qui remontait à l'Antiquité, en une image politique révolutionnaire sécularisée qui a fini par s'identifier à la volonté d'omniscience des régimes totalitaires. Il a obtenu aussi le prix Balzan, décerné par la Fondation Balzan, qui est établie en Suisse, qui est un prix particulièrement réputé. Ce prix est venu couronner la monumentale histoire du droit public en Allemagne, dont il est l'auteur. Une monumentale histoire à la fois par ses dimensions, 4 ouvrages dont celui-ci, et par son importance. Les enseignements consacrés au droit public du Saint-Empire romain germanique et au droit public général que l'on qualifiait d'universel et que l'on fondait sur le droit naturel remontent au début du XVIIe siècle. Ils ont donné naissance à une vaste littérature juridique qu'alimentèrent aussi à partir du milieu du XVIIIe, des auteurs qui ne faisaient pas partie des universités, mais qui étaient soit des personnes au service des États princiers ou des villes, soit des représentants des églises, soit encore des penseurs sans allégeance marquée. Les droits publics de nombreuses composantes du Saint-Empire devinrent aussi l'objet de recherches et d'analyses, de telle sorte que le nombre des écrits y traitant du jus publicum jusqu'à la fin du XVIIIe siècle apparaît vraiment stupéfiant, plus de 20 000 titres. On comprend aisément que les professeurs du Collège de France aient écrit à la Convention, en août 1793, au paroxysme de la Révolution, que le droit public, je cite, « est enseigné avec soin dans toutes les universités d'Allemagne ». Il ne faisait que reprendre une affirmation qui était courante depuis un demi-siècle, affirmation empreinte d'un certain dépit, car de Gaspard de Réal à Diderot, des penseurs d'inspiration divergente avaient déploré que ce ne fût pas le cas dans les universités du Royaume de France. Cette impressionnante masse documentaire, en latin et en allemand, a fait l'objet du premier volume de la vaste entreprise de Michael Stolitz, expliquer l'histoire du droit public en Allemagne du XVIe siècle à l'époque actuelle, et ce, dans une perspective ouverte, pluridisciplinaire. Le premier volume, apparu en 1988 à Munich, il a été traduit en français par M. Michel Sennelard et publié en 1998 sous le titre suivant « Histoire du droit public en Allemagne, droit public impérial et sciences de la police, 1600-1800 ». Et cet ouvrage a été traduit en italien dans la bibliothèque du Centre d'histoire de la pensée juridique moderne de Paolo Grossi à Florence. Dans l'introduction de ce premier volume, il indique quel sens il donne à l'expression « histoire du droit public » dont il reconnaît volontiers qu'elle peut être entendue de plusieurs façons. Je cite « L'histoire du droit public dont il est ici question est cette partie des sciences historiques générales qui, pour des raisons liées à l'histoire, a trouvé aujourd'hui sa place parmi les disciplines juridiques universitaires. Cette branche de l'histoire du droit a pour tâche de décrire la formation, la complexification et l'élaboration scientifique des règles de droit qui constituent la communauté nationale et régissent les rapports intérieurs entre gouvernants et gouvernés, ainsi que les rapports extérieurs avec les autres communautés. Ces rapports extérieurs, y relevés du droit des gens, du judicium, Michael Stolitz n'en a fait pas toutefois l'un des objets de ses ouvrages, mais il leur consacre un certain nombre de passages éclairants. Il en va de même du droit pénal, même si le droit du glaive a été considéré comme l'une des prérogatives essentielles du pouvoir princier. Il fait valoir à juste titre que ces matières ont connu des évolutions distinctes, qu'elles constituent des disciplines juridiques spécifiques. Il écarte aussi les droits internes aux églises, même si la proximité des pouvoirs temporels et spirituels, catholiques ou luthériens, les a fait inclure par certains auteurs dans le jus publicum. Mais il relève avec finesse les interférences entre les questions religieuses et les débats politiques. Il montre notamment le rôle qu'ont joué dans le développement du droit public et dans son érection en discipline juridique les discussions religieuses provoquées par la réforme luthérienne et les querelles subséquentes relatives au partage de la souveraineté entre l'empereur et les principautés. Ce que retient Michael Stolitz comme domaine de son étude, pour son premier ouvrage comme pour les suivants, comme pour les trois suivants, c'est ce qui correspond aujourd'hui au droit constitutionnel et à la théorie du droit, à la science politique, au droit administratif et à la science administrative. De ce domaine immense, qui est vraiment au cœur du droit public interne, il est parvenu à donner une vision d'ensemble aussi personnelle que séduisante. Il n'a pas cherché à retracer l'évolution des multiples dispositions qui ont pu exister dans ces matières. Il a conçu son histoire du droit public, je cite, comme l'histoire des textes à travers lesquels le droit public a été méthodiquement conçu, approfondi et systématisé, donc comme l'histoire d'une science. Ce qui constitue le but de l'étude, je cite encore, c'est d'offrir une vue d'ensemble d'un secteur du paysage intellectuel, principalement dans les universités. Il a voulu replacer les étapes de l'histoire du droit public dans le vaste arrière-plan formé par le climat intellectuel de leurs époques successives, climat intellectuel dans lequel la littérature stricto sensu doit être bien prise en compte, et très sincèrement, il a tout à fait raison, il suffit de lire quand même les œuvres d'un certain nombre d'auteurs dramatiques du XVIIe siècle pour éprouver exactement le sentiment qu'il exprime à cet égard. Ces œuvres participaient du débat de droit public, disons, du débat politique. Des liens entre droit public et littérature, comme des rapports intellectuels entre l'Allemagne et la France, un exemple révélateur est fourni par Georges Adam Juncker, qui fut l'un des tout premiers professeurs de droit public en France. Il a étudié dans les universités de Halle et d'Iéna, il a été docteur de celle de Göttingen, trois universités dont M. Stolley souligne le rôle fort important dans le développement du jus publicum, et il a dirigé le collège de Hanau, où il était né, de 1746 à 1751, c'est-à-dire l'époque où Moser, le plus éminent des publicistes de son temps, y a fondé une académie pour les praticiens des chancelleries et des tribunaux d'empire. Juncker est devenu professeur de droit public à l'école militaire de Paris, à l'école royale militaire de Paris, après avoir enseigné cette matière à titre privé, et on peut trouver encore l'annonce des cours qu'il donnait à titre privé, avec un certain nombre de précisions, comment se rendre d'ailleurs dans son appartement, qui se trouvait à proximité de Saint-Germain-des-Prés. Et c'est lui qui a entrepris, en 1786, d'écrire des leçons de droit public qui devaient constituer le premier manuel de ce droit destiné à de jeunes Français. Sous la Révolution, il a traité de cette matière à l'école centrale de la Seine-et-Marne. On a d'ailleurs un document intéressant qu'il adressait au ministre. Il reprenait exactement le projet de son livre initial, ce qui était assez curieux parce que son livre initial était destiné, disait-il, essentiellement aux jeunes gens de la noblesse. Sous la Révolution, il explique que ce qu'il avait écrit correspond parfaitement aux idées nouvelles. Or, Juncker s'était rendu célèbre en traduisant des ouvrages littéraires allemands et aussi en publiant une grammaire d'allemand qui, à l'époque, avait eu beaucoup de succès. J'ajoute au passage que le premier, à ma connaissance, des juristes français qui a fait un cours sur les constitutions des principaux États de l'Europe et des États-Unis d'Amérique, l'avocat Jacques-Vincent Delacroix, qui était professeur de droit public au lycée de Paris, a consacré trois de ses discours, 89 pages in octavo, publié en 1791, à la Constitution germanique. Ces trois leçons viennent juste après celles consacrées à l'Antiquité grecque et à l'Antiquité romaine. Delacroix justifie ce choix par l'importance du Saint-Empire romain germanique. Je cite, « C'est la constitution la plus compliquée, mais la plus essentielle à suivre dans tous ses rapports, parce qu'elle est le centre auquel se réunissent les intérêts des principaux États de l'Europe. L'Empire d'Allemagne est dans toute sa force, c'est un colosse de puissance au milieu de l'Europe. » Delacroix s'avère très optimiste, beaucoup trop optimiste, sur l'avenir du Saint-Empire. Je cite, « Malgré tous les vices de la constitution germanique, il y a lieu de penser qu'elle se soutiendra longtemps telle qu'elle est. » Alors Delacroix n'a manifestement pas été un bon prophète, mais il reconnaissait l'intérêt de l'histoire du droit public, pour le rendre sympathique à tous les historiens du droit. Je cite, « Ainsi nous sommes arrivés aux plus grandes bases du droit public à travers l'histoire. C'est le plus sûr moyen de ne pas s'égarer et de marcher sûrement. » C'est précisément au début du XIXe siècle que commence le second volume de l'histoire du droit public en Allemagne, celui qui couvre la période allant du début du XIXe siècle à 1914. Alors ce volume a déjà été traduit aux États-Unis et il est en cours de traduction en Italie, ainsi que l'a indiqué Bernardo Sordi dans le dernier numéro des Quaderni Fiorentini. Ce second volume repose, comme le premier, sur une documentation considérable, plus de 800 ouvrages de l'époque étudiée, de nombreux articles parus dans des revues nationales ou territoriales et des comptes rendus révélateurs des tendances de leurs auteurs. À cela s'ajoute une bibliographie extrêmement riche, dont témoignent les multiples références infrapaginales. L'histoire de la science, du droit public en Allemagne, du début du XIXe siècle à la veille de la Première Guerre mondiale, Michael Stolys expose dans le cadre d'un plan chronologique, la césure retenue étant tout à fait logiquement celle des années 1848-1849-50. Je ne vais pas évoquer le contenu de l'ouvrage, ce que vont faire d'éminents spécialistes qui m'entourent, mais je tiens à féliciter les traductrices, Madame Marie-Ange Maillet et Madame Maria Roy, et à saluer aussi le travail de Monsieur Bruno Debout. C'est absolument naturel. Je reprends mon texte. Vous voyez, comme si vous n'étiez pas là. Cette traduction, dans un français particulièrement agréable à lire, et la parution dans la collection Rivage du droit public que dirige Pascal Gonod, du volume consacré à la période 1800-1914, sont réalisés un moment particulièrement opportun pour les historiens du droit. Les historiens français du droit accordent de plus en plus d'intérêt à l'histoire de la pensée juridique, notamment grâce au professeur Nader Hakim et Frédéric Audren, comme à celle des droits administratifs et constitutionnels. Alors, l'ouvrage collectif que prépare l'Association des historiens des facultés de droit sur les tendances actuelles de l'histoire du droit en France le montrera prochainement. Le livre s'adresse aussi évidemment aux publicistes francophones qui savent la place qu'ont tenue les doctrines allemandes dans l'histoire de leur discipline, notamment à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Les contributions du colloque organisé par la faculté de droit de Strasbourg en 1995 le prouvent à l'évidence. C'est un colloque qui avait été organisé par Olivier Beau et Patrice Vazman, de même que les contributions de l'ouvrage dirigé par Olivier Joinjean et intitulé « Figure de l'état de droit » qui a paru à Strasbourg en 2001. Mais il faut ajouter que les publicistes trouveront aussi dans cet ouvrage, au fil des développements, de précieuses informations sur des thèmes qui font l'objet de débats actuels, comme les droits fondamentaux, les garanties constitutionnelles, la fameuse réserve de loi, le droit constitutionnel non écrit, le fédéralisme, les rapports du droit constitutionnel et du droit administratif, la place de la juridiction administrative, le recours au contrat pour le recrutement des agents publics, etc. Ce second tome, s'adresse aussi naturellement aux historiens qui s'intéressent au XIXe et XXe siècle et plus largement à tous ceux qui souhaitent mieux connaître l'histoire de l'Allemagne. Michael Stolys souligne par exemple l'influence des idées de Lorenz von Stein favorable au socialisme d'État conservateur sur Bismarck, ce qui, dit-il, a été déterminant jusqu'à nos jours pour la variante allemande de l'État social européen. Dans son ouvrage, il évoque un livre de von Moll qui, je cite, « regorge d'informations bibliographiques et de jugements critiques, de présentations où il répertorie et structure des courants et des écoles entiers » et Michael Stolys ajoute modestement que son propre ouvrage lui doit beaucoup. Or, ce livre de von Moll a fait l'objet d'un compte rendu de Rodolphe d'Arest à la Revue historique de droit français étranger, dont il a été l'un des fondateurs. Je cite, « L'érudition, dont l'auteur a fait preuve dans ce travail, a vraiment quelque chose d'effrayant. Ce n'est pas en effet un simple catalogue où les livres sont désignés par leur titre, c'est une analyse suivie et systématique de tous les documents imprimés relatifs au droit public. C'est en même temps l'histoire de la science, de ses progrès, de ses écarts, c'est la critique éclairée et impartiale de ce qui a été fait, l'indication de ce qui reste encore à faire. En un mot, c'est le meilleur guide que puisse prendre quiconque veut étudier sérieusement le droit public et les sciences qui s'y rattachent. À part le mot effrayant, qu'on remplacera facilement par le mot impressionnant, cet éloge s'applique parfaitement au second tome de l'histoire du droit public en Allemagne. Et donc, il ne reste plus qu'à émettre le souhait que la traduction des deux volumes suivants, consacrés aux périodes 1914-1945 et 1945-1990 soient rapidement entreprises et publiées par les éditions Dalloz dans la collection que dirige Pascal Godot.
Je m'associe à ce souhait, mais bon. Merci Jean-Louis. Je vais passer tout de suite la parole à Nader Hakim. Les intervenants vont donner livrer leur appréciation sur l'ouvrage et éventuellement il y aura des échanges entre eux et la salle peut évidemment intervenir.
Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si je dois remercier Pascal Godot de m'avoir fait venir aujourd'hui, même si c'est très agréable. Tout simplement parce que je suis un incompétent notoire, ni germaniste, ni publiciste. Mais que fais-je ici? C'est la grande question. En réalité, je suis ravi. Je suis ravi parce que, tout simplement, ça m'a donné l'occasion, je l'aurais eu tout de même, je le crois, mais ça m'a presque obligé à lire cet ouvrage. Et j'en suis ravi. Alors, ravi à titre tout à fait égoïste. Je ne vais pas, quitte à contredire encore une fois Pascal, dire ce que je pense de l'ouvrage. Il y aurait, je crois, trop à dire et je ne suis pas assez compétent, me semble-t-il, mais plutôt ce que m'a apporté l'ouvrage, une sorte de lecture égoïste, presque narcissique, de l'ouvrage de Michael Stolice. Et alors, j'appellerais ça très. Un clin d'œil évidemment à Rudolf von Hering. Que nous est Stolice? Que nous est Stolice à nous, historiens du droit français du XXIe siècle? Alors, ma réflexion a débuté par la lecture d'un compte-rendu relatif au premier volume de la quadrilogie sur le droit public allemand. Et l'auteur du compte-rendu, je ne citerai pas son nom par charité chrétienne, nous dit qu'il s'agit là d'un tableau érudit et baroque qui déroute, qui déconcerte le lecteur français. Car le lecteur français, nous dit-il, est sensible au charme de l'art roman et des jardins à la française. C'est très joli, c'est très joli. Alors voilà pour moi la question. Est-ce que cet ouvrage est pour nous une sorte de bizarrerie qui nous déconcerterait forcément, puisque nous sommes fans et amateurs de jardins, de romans et à la française? Ou est-ce qu'il n'y a pas peut-être des brindilles, des glanes à tirer de la leçon d'Outre-Rhin? Alors c'est la grande question. Est-ce que le cas allemand, au-delà du cas allemand, il n'y a pas pour nous, historiens du droit français, vous voyez, je fais une lecture très pro-domo et très égoïste, hein, mais pour nous, historiens du droit français, donc, des choses à prendre en compte. Alors, je ne reviendrai pas sur les aspects centraux, les plus importants, notamment sur le fait que, et là, je partage totalement les options, enfin, presque totalement, les options méthodologiques prises par Michael Stolice dans cet ouvrage, notamment qui sont esquissées dans l'introduction du premier volume. Pour les résumer très rapidement, les options avec lesquelles je suis totalement d'accord, c'est-à-dire dire que les textes de la science juridique rendent compte d'une perception des choses, d'un langage, d'une culture, et que ces textes, donc une fois étudiés, cette science, doit être étudiée dans son contexte historique. C'est la pierre d'achoppement, si je ne m'abuse, hein, de l'œuvre qui nous est proposée ici. Je suis également totalement d'accord avec le fait que ce discours juridique est une réalité en soi. Ça, c'est quelque chose qui m'a plu d'emblée dans l'œuvre. C'est une réalité. Le discours n'est pas que discours dans le langage courant. Il est une réalité en tant que tel, et il est une réalité en tant qu'il génère des actes, il génère des comportements. Et donc, je ne reviendrai pas là-dessus, même si finalement le cœur du problème est là, me semble-t-il. Mais je vais revenir sur plutôt ce que je pourrais appeler le processus de narration historique adopté dans cet ouvrage. Dans ce beau livre, il y a bien un processus qui nous amène à nous parler de l'objet qui est l'histoire du droit public, et nous sommes tous d'accord, qui serait qualifié peut-être en France, peut-être, dis-je bien, comme une histoire de la pensée juridique publiciste, mais j'y reviendrai si j'ai le temps. Alors, quelle est cette narration? Il me semble que cette narration pourrait surprendre la plupart des historiens du droit français. Alors, pourquoi? Pour faire très vite et très schématiquement, il me semble que si on prend les objets, les titres des œuvres françaises, et qu'on les compare à cet ouvrage, un chat ne reconnaîtrait pas ses petits, sous le même titre, sous le même objet théorique, on parle de choses très très différentes. Et finalement, la première image que ça me renvoie, c'est que finalement en France, nous aurions des historiens du droit très positivistes, j'ai envie de dire dans le mauvais sens du terme, pas des normativistes et des positivistes méthodologiques, mais des positivistes légalistes, pourrait-on dire. Il y aurait des objets réels qui seraient des faits, des jurisprudences, des textes réglementaires, des actions, des décisions du gouvernement. Ça serait le droit public. Et il y aurait de la pensée juridique qui serait des simples discours. Et très souvent, discours et faits sont séparés dans nos pratiques françaises. Alors, il y a bien sûr des exceptions. Il ne s'agit pas ici de faire un schéma uniforme et univoque, mais la tendance générale est bien plutôt à une attitude distinguant très clairement l'objet droit du côté kantien, on va dire, du devoir-être et l'objet de l'historien. Et donc, il y aurait une séparation entre les deux très nette. Alors, on pourrait dire, mais c'est tout à fait naturel, puisque nous parlons de deux choses différentes. Le cas français est tellement différent du cas allemand. Pour qui étudie le droit administratif français au XIXe siècle ou le droit constitutionnel du début du XXe siècle et a fortiori aujourd'hui, évidemment, les cas sont différents. Pourtant, il me semble qu'au-delà de cette différence, il y a des choses pour nous à glaner dans cet ouvrage, dans cette narration de l'histoire par le discours. Alors, je ne prendrai pas le temps de faire des citations, mais des citations qui sont tout à fait symptomatiques. Alors, si j'essaie d'être structuraliste, si je décompose, pour moi, il y a quatre moments dans cette narration, dans l'ouvrage, et quatre moments qui sont pour nous très, très intéressants. Et peut-être surprenants. Malheureusement surprenants, devrais-je dire. Le premier moment, c'est presque toujours dans l'œuvre un moment d'analyse sociologique, économique et politique. Il s'agit d'abord de dire quel est le contexte dans lequel va s'insérer le discours juridique. Et il y a presque à chaque fois, systématiquement, ce souci d'informer le lecteur que le discours va s'inscrire, va s'hypostasier dans une trame historique qui est particulière et changeante, donc qui nécessite à chaque fois de venir dire au lecteur « Voici quelles sont les conditions politiques, économiques, sociales d'un moment particulier. » Et ce n'est que lorsque ce moment est esquissé, parfois de façon très brève, mais à chaque fois il y a là des synthèses que nous rencontrons. Voilà, une fois que le moment est esquissé, nous pouvons passer à la deuxième étape. Alors, le lecteur français, dans les œuvres, la plupart des œuvres qu'on lit en France aujourd'hui encore, passerait directement, alors, que dit le juriste ou que disent les textes? Eh bien, c'est là que la chose devient intéressante et que la surprise peut apparaître, malheureusement, pour le lecteur français. Le deuxième moment n'est pas directement le discours juridique, me semble-t-il. Il est plutôt l'inscription du phénomène juridique dans un contexte intellectuel ou, j'y reviendrai si j'ai le temps, culturel. C'est-à-dire que, avant même d'envisager le discours, après avoir esquissé ce contexte, cette trame historique, apparaît un nouveau moment. Il faut passer par une histoire des universités et des professeurs avant de pouvoir dire quel est le contenu du discours. À nouveau, on pourrait dire, mais c'est le cas allemand, puisque le cas allemand est tellement différent du nôtre, le rôle des universités en Allemagne est bien plus important qu'en France, donc ça expliquerait la différence. Je ne suis pas totalement persuadé, non pas de la différence est évidente, mais le fait qu'en France, on puisse faire l'économie de cette contextualisation du discours. Et donc, et ce qui est très intéressant, c'est qu'à nouveau, on va, me semble, lire une contextualisation du discours. Après une contextualisation générale, nous avons une contextualisation propre à un groupe social particulier, qui est le groupe des professeurs de droit et des universités. Et donc, à nouveau, nous retrouvons des éléments du contexte social, économique, politique, propre aux universités. Ce qui, d'ailleurs, a pu surprendre le lecteur du compte-rendu, enfin l'auteur du compte-rendu dont je vous parlais tout à l'heure. Troisième moment, le contenu du discours, toujours pas. Il me semble qu'il y a un troisième élément dans la narration, dans la structuration, c'est le contexte intellectuel lui-même. Donc, non plus le contexte général, non plus le contexte social propre aux universités, aux professeurs, aux groupes des professeurs de droit, leur situation par rapport aux personnels politiques, par rapport au gouvernement, etc., etc., aux élites, mais cette fois-ci, le contexte intellectuel lui-même. Presque à chaque fois, pas toujours dans l'ouvrage, mais c'est, il me semble, relativement systématique, il y a une tentative de compréhension du discours et des formes du discours. Jean-Louis Maistre l'a souligné dans son introduction. Le souci de l'histoire de la littérature juridique me semble décisif dans l'ouvrage et me semble décisif pour nous, lecteurs français. À chaque fois, la forme littéraire est un des moyens de contextualisation du discours qui permet une meilleure compréhension de celui-ci. Mais ce n'est pas tout. On y voit des éléments relatifs aux rites, aux usages, au savoir-faire du groupe social dont il est question, des éléments Alors le mot apparaît peu, je ne sais pas si on y reviendra peut-être dans l'ouvrage, et ça m'a surpris parce que finalement tout est en place, c'est le mot culture juridique, ou les cultures juridiques est assez peu présent, il apparaît, mais il est assez peu présent alors que finalement tout est là. Bon. Alors on pourrait à la fois, encore une fois, dire mais il y a une spécificité allemande qui justifie que dans ce magnifique ouvrage nous ayons cela et que nous ne l'ayons pas en France. Permettez-moi de poser la question. Est-ce uniquement la spécificité allemande ? Il me semble que non. Je ne veux pas être désobligeant, mais il me semble, à la lecture de cet ouvrage, que nous-mêmes, historiens du droit, sommes peut-être paresseux, tout simplement, puisqu'il faudrait faire ce travail-là, et que la plupart du temps, il n'est pas fait. Il n'est pas fait. C'est du moins vraiment... Et puis, je prendrai qu'un seul exemple. Le rapport aux politiques, par exemple. Hein. Il y a des passages à propos de la bande, je les ai relevés, et je pensais à toi, Olivier, en les lisant. Page 467, 471, relative à « Mais pourquoi la bande fait-il cela ? Sa méthodologie s'inscrit sans... » Il n'y a aucune naïveté, ce qu'on reproche très souvent aux juristes. Et vous savez, depuis Nicolas Aurès, mais ce n'est pas jeune, que les juristes sont des idiots politiques. Eh bien là, voilà, pour une fois, le juriste n'est pas un idiot politique, puisqu'il nous dit « Il y a bien des présupposés politiques au discours juridique, mais il n'y a pas de fausse naïveté. » Et c'est ce qui m'a beaucoup intéressé. Il n'y a pas de fausse naïveté de la part des auteurs. Ils connaissent les conséquences de leur déduction, simplement, ils font des choix. Et ces choix politiques sont, me semble-t-il, restitués dans cet ouvrage. Et à chaque fois, il y a ce souci de contextualiser la pensée dans lequel s'inscrit le discours. Et enfin seulement arrive, quatrième étape, dans mon structuralisme primaire, hein, je reconnais, mais dans mon structuralisme, quatrième étape seulement, arrive le discours. Or, ce discours est pris au sérieux. Voilà ce qui m'a beaucoup plu. D'emblée, le discours des juristes est pris au sérieux, mais n'est pas pris au sérieux. Je suis encore tout à fait désobligeant. Comme nous le faisons souvent en faisant des hagiographies de nos grands auteurs qui sont pris au sérieux parce qu'ils sont grands. Ici, les auteurs ne sont pas sérieux parce qu'ils sont grands. Ils sont grands parce qu'ils sont sérieusement étudiés. Ce n'est pas du tout la même chose, me semble-t-il. Il n'y a pas ici d'hagiographie, il y a simplement une prise au sérieux du récit juridique, du discours juridique en ce qu'il est et en ce qu'il est contextualisé. Il est inséré dans une trame. D'ailleurs, cette trame a son historicité qui est propre. Ça m'a fait penser immédiatement à un texte de Jean-Louis Alperin sur le droit et ses histoires. Il y a bien plusieurs chronologies, plusieurs historicités qui se croisent. Il suffit de prendre cet ouvrage pour en avoir une démonstration flagrante. Et oui, il y a des ruptures constitutionnelles. En France, les ruptures constitutionnelles sont presque toujours les ruptures, les césures de la pensée. Et bien là, on voit que, et bien, même si la pensée d'un auteur est peu de choses par rapport à une rupture constitutionnelle, parfois la pensée la trame de la pensée n'achoppe pas avec les mêmes chronologies. Et donc, il y a des historicités, des trames historiques qui se mélangent. Et c'est bien là un des aspects aussi qui m'a beaucoup intéressé, c'est de montrer que comment les choses s'articulent entre elles. Parce qu'il n'y a pas une histoire qui serait l'histoire des textes officiels, une histoire du droit, mais bien des histoires, et au moins, pour le moins, une histoire de la pensée juridique et une histoire de la positivité, pour autant dire, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, voilà ce qui est restitué. Alors, je m'arrête là. Le résultat, bien sûr, je peux comprendre qu'on puisse être déçu par cet ouvrage. Oui, les grandes écoles de pensée qu'on apprend facilement se délitent un petit peu. Elles s'effacent devant la variété, la diversité. C'est moins simple qu'il n'y semblait. Les idées les plus convenues s'estompent. Les grands auteurs sont moins grands. Les jardins à la française ne sont plus des jardins à la française. La géométrie est un peu perdu. Ce qui reste, il me semble, c'est l'histoire. Merci.
Ah, c'est bon ? Non, ça marche pas. Ça marche. C'est bon. Merci Pascal, merci pour cette invitation. Comme Nader, je fais partie des mises en bouche, étant donné le degré d'incompétence qui me caractérise moi-même sur cette question-là. Mais ce n'est pas un problème puisque je ne serai pas arrêté par mes propres ignorances et mes propres bêtises, donc j'y vais relativement tranquillement. Alors naturellement, j'ai été tout à fait intimidé et impressionné par ce volume, par l'érudition prodigieuse qui est déployée, par la vision qu'il propose. Et là encore, je crois qu'il faut féliciter les traductrices du travail réalisé, puisqu'il rend l'ouvrage tout à fait agréable à lire et sans aucune difficulté, ce qui est quand même une gageure avec un ouvrage comme ça. Quand je l'ai eu, je dois avouer que j'ai été un petit peu tétanisé en me disant « Ouh là là, qu'est-ce que ça va être pénible à lire ?» Eh bien non, ça se lit tout à fait facilement. Donc la traduction est excellente et merci aux traductrices d'avoir facilité le travail des lecteurs. Si ce travail de traduction me semble tout à fait indispensable, et naturellement cette collection tend à souligner l'importance de cette traduction pour nos propres travaux, il faut quand même reconnaître qu'il n'est pas sûr que cet ouvrage trouve un public au-delà de son public tout à fait naturel, parce que par bien des aspects, la traduction complètement brute n'est pas toujours très très simple pour le non-spécialiste que je suis. Et parfois, on aurait aimé, par exemple, trouver un ensemble de cartes géopolitiques pour aider la lecture, ou un certain nombre de notations qui permettraient de faciliter le travail. Mais là, ou en tout cas la lecture. Mais là, comme je dis, ceci ne concerne que les quelques non-spécialistes. Alors, le point qui me semblait tout à fait important, c'est que, ou en tout cas l'intérêt que j'ai pu trouver à cet ouvrage, c'est que, contrairement à ce que je pouvais penser, cet ouvrage me semble complètement réduire l'écart que je pouvais imaginer entre la situation française ou la situation allemande. Je l'ai lu plutôt comme un effort pour rapprocher deux, non pas deux types d'histoire qu'a analysé Nader, mais deux mouvements historiques, à savoir d'un côté l'Allemagne et d'un autre côté la France. Et il y a comme un paradoxe à saisir à partir de ce point local qu'est l'Allemagne, comme une ouverture vers quelque chose de plus global, ou pour le dire autrement, il me semble que cet ouvrage est une pierre, non pas simplement à une histoire du droit public allemand, mais à une véritable histoire transnationale du droit administratif, et ça c'était une vraie découverte. Pour peu qu'on s'arrête de lire, en tout cas, l'histoire du droit français à l'aune du Conseil d'État et de la faculté de droit, ce qui est évidemment pas très très facile pour nous, l'histoire du droit public français se révèle aussi sujette à bien des tensions décrites dans cet ouvrage, à cette perméabilité aux évolutions politiques, à ces tensions entre État et société, à cette tension entre politique et science. Et la scansion proposée par cet ouvrage me semble, dans une très large mesure, recouper le rythme, les pulsations, même du droit administratif français. Ça ne signifie pas évidemment qu'il s'agit de mélanger les deux, mais on s'aperçoit que si on s'interdit une forme de démarche anachronique qui consiste à voir le 19e siècle comme un moment qui annonce la grandeur du Conseil d'État et des grands professeurs de droit. Donc, si on arrête de concevoir ce 19e siècle français comme étant pré-scientifique, on découvre effectivement des proximités tout à fait surprenantes, et évidemment à condition, en tout cas quand on regarde le droit français, de le regarder au bon endroit. C'est-à-dire que si on veut saisir le même type de débat que l'on peut trouver en grande partie dans cet ouvrage-là, il ne faut évidemment pas regarder du côté des facultés de droit, ici il ne passe pas grand-chose, mais du côté, en grande partie, de toute une littérature souvent oubliée, qui est le fait le plus souvent de publicistes, on s'en entendu dans le vieux sens du terme, hein, donc plutôt de journalistes ou d'avocats, qui vont intervenir comme dans des revues comme la Revue des Deux Mondes ou la Revue Encyclopédique, où on trouve exactement ce type de débat et qui sont passés complètement à la trappe, parce qu'évidemment, ce sont des vaincus, et donc on les a quelque peu oubliés. Mais si effectivement on consent à regarder les débats de l'époque à travers ce prisme non anachronique, on s'aperçoit qu'on redécouvre des proximités tout à fait inédites. Alors, cette proximité, évidemment, des questions, des problèmes, des méthodes et de la France, entre la France et l'Allemagne, me semble évidemment soulever un problème méthodologique et historique important. C'est qu'est-ce qui explique en définitive cette proximité ? Alors, il y a effectivement la possibilité de saisir les choses comme la France et l'Allemagne ont des questions ou des problèmes en commun. Bien sûr, elles affrontent des questions politiques communes. Ou alors, effectivement, on pourrait la rapprocher de traditions communes, traditions romano-canoniques, par exemple, avec les outils du jus communé qui, effectivement, permettraient de saisir les choses dans le même sens. Mais si cette hypothèse me semble tout à fait juste, il y a aussi quelque chose qui me semble quelque peu disparaître de votre ouvrage, c'est ce qui circule d'un pays à l'autre. C'est-à-dire que la dimension des logiques de circulation intellectuelle d'un pays à l'autre est présente, mais est un aspect qui est relativement effacé ou relativement réduit, ce qui fait qu'on a parfois l'impression que les Allemands sont dans une sorte de tête-à-tête avec eux-mêmes. À certains endroits, vous faites des mentions, évidemment, de ces porosités entre les différentes cultures juridiques, mais de façon générale, c'est quelque chose qui est fort peu présent. Et donc, parfois, on a l'impression que on voit que cet ouvrage est une possibilité, une ouverture à quelque chose qui serait comme une histoire transnationale, mais de temps en temps, on aimerait bien qu'il y ait ce travail de circulation entre les différents pays européens qui pourrait être plus présent. Alors, évidemment, quelle surprise pour l'historien du droit, et là je rejoins Nader, de voir, et évidemment Jean-Louis Mestre, que ce qui est présenté comme une histoire du droit public en Allemagne, évidemment, spontanément, le français aurait tendance à le rebaptiser comme une histoire de la science juridique du droit public, naturellement. Très peu de choses, évidemment, sur la justice administrative. La jurisprudence est complètement absente. Enfin, évidemment, c'est une véritable important. C'est quelque chose, évidemment, d'un peu surprenant, avec une centralité des professeurs de droit et de leur savoir, bien sûr. Ça a été rappelé, là, juste précédemment, lié aussi à des questions de tradition, mais aussi peut-être une sorte d'imaginaire des professeurs de droit qui s'imaginent en professeurs politiques, dont on ne sait pas vraiment si, effectivement, cette figure du professeur politique est un moment daté de l'histoire du droit public allemand, ou si c'est plutôt une sorte d'horizon inconscient de tous les juristes allemands qu'il faudrait mettre en lumière. Alors, le périmètre, la question, me semble-t-il, du périmètre de l'histoire du droit, justement, ne me semble pas devoir être posée à partir de la question de qu'est-ce que le bon droit. Ou pour le dire autrement, l'entrée du périmètre, enfin, la définition du périmètre de l'histoire du droit ne doit pas être posée à partir de la question de qu'est-ce qu'on doit traiter quand on fait justement une histoire du droit public. Si effectivement la question du périmètre de l'histoire du droit public est traitée à partir de cette question effectivement de quel droit public nous intéresse, il me semble-t-il qu'on tombe dans quelque chose, enfin on se mord la queue et on n'avance pas. Parce que soit effectivement on tombe sur la perspective qu'il y a des spécificités nationales, et donc on va dire bah oui, mais le droit public allemand il est plutôt du côté scientifique et puis le droit public français il est plutôt du côté de la jurisprudence, qu'on a dit ça, on n'a pas beaucoup avancé. Pareillement, on peut évoquer la possibilité d'enjeux corporatistes en considérant que la vision scientifique est au service d'un travail de légitimation des professeurs. Ça, c'est tout à fait une possibilité, mais quand on a dit ça, on n'a pas beaucoup avancé non plus. On pourrait aussi considérer que c'est simplement un problème de titre. On aurait pu vous dire, mais vous avez qu'à changer de titre et puis on comprendra mieux. Hein. Changer le titre, appeler ça histoire de la science du droit public, la science du droit public en Allemagne, et là, ça serait effectivement peut-être plus clair. Bref, comme vous voyez, on n'avance pas beaucoup, et je crois que si effectivement le débat porte uniquement sur la question de c'est quoi effectivement le périmètre d'un bon droit public, eh bien ça ne donne rien. Il me semble qu'à l'inverse, et c'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre ouvrage, c'est que cette question du périmètre de l'histoire du droit public doit s'aborder non pas à partir de la question du droit public lui-même, mais à travers la question de qu'est-ce qui fait science, en fait. Qu'est-ce qui fait science ? Quelle conception, en quelque sorte, de la science est véhiculée par votre ouvrage et comment elle l'interroge? Et de ce point de vue-là, si on aborde cette question non plus si l'entrée n'est plus effectivement à partir de, ben, effectivement, l'histoire du droit public doit avoir tel élément, ça me paraît complètement vain. Par contre, si effectivement la question c'est quel type de science on doit effectivement mettre en lumière, qu'est-ce qu'on doit suivre, qu'est-ce qu'on doit expliciter pour voir le travail scientifique, ça me paraît beaucoup plus intéressant. Et là-dessus, je voudrais simplement m'arrêter sur deux points qui me semblent absolument passionnants et en même temps me posent des questions. Il me semble que dans l'ouvrage, la science, en tout cas la conception de la science que vous développez, ça pourrait en quelque sorte se définir comme effectivement un ensemble de productions intellectuelles touchant évidemment à l'État, à l'administration, à la Constitution. Donc, ce qui est central ici, c'est que les juristes sont des producteurs d'énoncés juridiques. Et ce sont ces énoncés qui organisent le champ juridique. Et on le voit tout à fait lorsque une partie importante de votre travail, c'est la définition des groupes ou des différents courants. Qu'est-ce qui organise la structuration des groupes? C'est évidemment le fait de partager un certain nombre d'idées, le fait de partager un certain nombre de points communs en termes intellectuels. Donc on va pouvoir effectivement réunir ou faire des rassembler, ou on va avoir des sortes d'aires de famille. Le gros problème, c'est que Et ça, c'est, je crois, une des caractéristiques de la sociologie des sciences qu'il a montré assez récemment, c'est que souvent, le problème, les idées ne permettent pas de rendre compte, bien souvent, de la structuration des groupes. Et on le voit bien, tant, par exemple, pour le cas français, lorsque vous essayez de réduire les choses à des écoles, ça ne fonctionne jamais. Il y a toujours quelque chose qui échappe aux écoles. Et là encore, dans votre ouvrage, c'est toujours assez fascinant le travail de classification que vous réalisez, et souvent le fait qu'à la fin de la présentation de vos classifications, vous indiquez « ben oui, mais en fait, cet auteur pourrait participer à telle autre classification ». Donc, ou alors, vous présentez deux types de courants en indiquant qu'un auteur pourrait faire partie des deux courants à la fois. Alors là, évidemment, on est un petit peu troublé par cette opération. Et je crois que, justement, une des grandes explications, c'est que si le principe structurant des groupes, c'est effectivement la proximité des idées, ça ne fonctionne pas forcément très très bien. Voilà. Et ce qui fait que l'ensemble de votre travail me semble assez largement reposer sur un immense travail très impressionnant, travail classificatoire, où on va y chercher effectivement à distribuer l'ensemble des auteurs dans différents courants déterminés, à tel point que il y a comme un effet de renversement au bout d'un certain moment, c'est-à-dire qu'on ne sait plus vraiment si le but du jeu, c'est de saisir effectivement comment effectivement ces classifications permettraient d'éclairer la production du droit. Mais parfois, on a l'impression que la classification est en quelque sorte un but en soi. C'est-à-dire qu'il y a un travail de distribution complet des auteurs dans différents courants. Et on ne sait plus si ce travail de classification apporte quelque chose ou permet de dire quelque chose sur l'articulation entre le texte ou le contexte, ou si plutôt ça dit plutôt quelque chose des obsessions de leur auteur ou d'une histoire du droit allemand qui, là, cherche ou a effectivement ordonné un monde très compliqué. Donc, pour le dire autrement, l'articulation entre le texte et contexte me semble souvent s'effacer derrière une logique classificatoire qui devient à elle-même son propre but. En fait. Et on perd en quelque sorte ici ce travail qui me semblait pourtant au cœur de votre problématique, à savoir justement ce travail d'articulation du texte et du contexte. J'en ai un exemple très très simple, c'est-à-dire que dans, à certains endroits, vous présentez les différents auteurs et vous dites « Ah oui, mais cet auteur effectivement est un petit auteur, il est complètement oublié. » Donc il y a effectivement les grands auteurs et puis il y a les petits auteurs. Mais d'un point de vue d'une histoire de la science juridique, il me semblait que ce qui était peut-être plus intéressant, c'est de voir comment se construit de la grandeur. Et donc, effectivement, pourquoi tel auteur est plus petit que l'autre, plutôt qu'effectivement de distribuer les choses entre petit et grand. Et donc là, effectivement, on est un peu saisi par le fait que la dynamique scientifique, et donc de la production des enjeux de pouvoir, en partie sur la science, disparaît au profit de quelque chose qui vise à faire un tableau tout à fait statique. Donc la dynamique de la science que vous semblez avancer régresse au profit d'un tableau relativement statique. Deuxième point, et je m'arrêterai sur cet aspect, qui me paraît tout à fait au centre de votre lecture, et je dirais presque que c'est quasiment le point central, c'est la question de la politisation-dépolitisation. Ça me paraît absolument un massif, absolument considérable de votre travail. Et là, de ce point de vue-là, effectivement, c'est souvent assez éloigné des lectures classiques que l'on pourrait faire en droit public en France, bien sûr. Et en partie, en quoi votre terminus, à savoir la question du positivisme, est une construction historique et n'est pas simplement un point d'appui à partir duquel on pourrait juger du reste de l'histoire. Donc, dans ce travail de la politisation, il me semble qu'il y a plusieurs thèses possibles en le lisant. Il y a tout d'abord la thèse qui ferait votre thèse mettrait à jour le fait que on irait de quelque chose qui serait un droit politique, une science politique, vers quelque chose qui serait beaucoup plus scientifique, hein, et donc qui expurgerait le droit, enfin les questions juridiques, des dimensions les plus politiques. Cette vision me semble une lecture complètement évolutionniste et ne semble pas du tout ce que vous défendez. Il me semble qu'en fait la structuration qui est sous-jacente, je vais arriver, à votre argumentation, c'est pas le passage entre politique et scientifique, c'est la question du politique explicite à la question du politique caché. Pour le dire autrement, ce qui est important, dans les constructions juridiques, c'est la question des intentions, en quelque sorte, politiques des auteurs. Dans la première partie, effectivement, on aurait des auteurs qui explicitement construisent quelque chose qui est assumé clairement comme politique, alors que le travail de scientificité, notamment via le travail par la science du droit, expulse un certain nombre de questions politiques, mais ces questions politiques sont évidemment cachées. Hein. Et donc, c'est ce balancement entre explicite et caché qui me paraît beaucoup plus important. Alors, le gros problème de cette thèse, et là, ça me pose, c'est que ça veut dire clairement que le droit public subit des recompositions constantes, des changements, des révolutions, mais qu'au-delà de cette révolution, il y a quelque chose quand même qui semble traverser l'évolution et qui semble être relativement constant, c'est la question de la politisation, de la mise en forme politique ou de la question politique qui est quasiment identique du début du 19e ou à la fin du 20e. Les formes juridiques peuvent évoluer, mais il y a quelque chose qui semble traverser et qui structure en quelque sorte les questions juridiques. Et ce point, en quelque sorte, constant, c'est la question politique. Donc d'un côté, on aurait une discontinuité du droit public, et puis de l'autre côté, quelque chose comme une continuité de la substance politique qui est complètement présent. Pour le dire autrement, j'ai bien l'impression de temps en temps que cette idée de politique, en maintenant une forme de continuité, joue le rôle de ce que pourrait jouer, par exemple, le jus commune, par exemple, pour le droit civil. C'est-à-dire que c'est l'élément de stabilité à partir duquel va se structurer le droit. Hein. Au-delà de la discontinuité des formes juridiques, des formes du droit public, il y a quelque chose qui semble traverser de part en part, qui semble être constant, en quelque sorte, chez les juristes, c'est cette préoccupation politique. Alors, évidemment, la question que je me pose en vous lisant, c'est, mais je sais pas, si effectivement l'historicité du droit public est parfaitement mise en œuvre dans le fait que vous montrez qu'il y a bien des recompositions du droit public, j'avoue que je ne sais plus vraiment ce qu'est ce geste politique qui semble être toujours égal à lui-même, qui semble toujours être constant et qui semble traverser le siècle. Ça ne veut pas dire évidemment que les préoccupations politiques sont identiques entre le début du 19e et la fin du 19e, mais il y a quelque chose comme une forme de politisation qui est à peu près toujours la même chose. Il y a toujours une façon politique de saisir les questions qui ne semble pas évoluer. Et là, ça me pose un petit problème, et je terminerai sur ce point-là. Évidemment, je ne connais pas le cas allemand, donc je vais dire, pour éviter de dire des bêtises, je prendrai le cas français, là, j'assumerai mes bêtises, il n'y a aucun problème. Quand je dis que pour le cas français, on a à peu près le même mouvement, on a à peu près effectivement le même mouvement entre, si on regarde de près, on a bien quelque chose comme la méthode juridique qui va intéresser les juristes français à la fin du 19e. Mais avant, on a bien quelque chose qui est relativement identique à ce que vous décrivez. C'est par exemple le droit entendu comme une science de la législation, ou pour le dire autrement, une science morale et politique. Donc on a bien exactement ce mouvement qui passe de la science morale et politique à quelque chose comme une méthode juridique. Mais entre l'une et l'autre, je ne suis pas sûr qu'on ait dans les deux cas quelque chose comme une forme de politisation identique. Pour le dire autrement, je vois bien en quoi il y a une forme de politisation à l'extrême fin du 19e siècle, notamment sous la recomposition républicaine, avec notamment la question de la question politique, la question de la restructuration des partis, etc. Mais il n'y a pas à proprement parler de politisation des sciences morales et politiques, parce que les sciences morales et politiques, justement, est liée d'une indifférenciation des objets politiques, moraux et juridiques. Donc, l'idée de politisation me semble exister quand on est dans quelque chose qui va déjà se distingue. Or, pour la période qui est antérieure, ces choses ne se distinguent pas. Donc, il y a bien quelque chose comme une évolution du droit public au début du 19e et à la fin du 19e, ça c'est incroyable, mais je pense que la substance politique ou la politisation est elle-même sujette à des évolutions, alors que, effectivement, dans votre ouvrage, on a l'impression que c'est un peu l'élément stable qui permet d'organiser le mouvement, ce monde mouvant du droit public. Donc, j'ai parfois l'impression que vous confiez aux politiques, entendu dans un sens qui parfois m'échappe un petit peu, donc c'est pour ça que j'aimerais bien vous entendre sur qu'est-ce que vous entendez par politique ou par politisation. Vous semblez parfois confier aux politiques ce qui semble disparaître, en quelque sorte, ce que plutôt les incertitudes ou les recompositions du droit public semblent interdire. Donc d'un côté, pour combler la discontinuité du droit public, vous semblez tout d'un coup mobiliser quelque chose qui s'appelle comme de la politisation, en imaginant que c'est quasiment la même chose du début du 20e à la fin du 20e. Et donc, ce que vous parlez d'un côté, vous semblez essayer de le récupérer de l'autre côté. Donc, j'aimerais bien vous entendre sur cette question de c'est quoi, au fond, cette idée de politisation qui est au cœur de votre ouvrage.